Bonjour et bienvenue dans Indie Echo, du coup le podcast de Indie Collective. Salut. Aujourd'hui, on reçoit Corto de Wildwood Games et du coup, il va nous parler un peu de son projet Etheris et il a surtout fait ça en fait dans sa société de plus de 13 personnes que tu disais.
Ouais, on est 13 actuellement.
Suite à un Kickstarter réussi de 30 000 euros et de plus de 30 000 euros avec 533 contributeurs qui ont participé.
Bonne mémoire.
Nice.
Et puis donc on va parler à la fois de ton parcours original, en tout cas de comment tu as rencontré le jeu vidéo.
Ouais.
Et puis ensuite comment tu t'es mis à dire je vais faire du jeu vidéo. Et okay. Puis aussi un peu ce qui t'intéresse dans la vie en général, des autres choses. Voilà, il me semble que
yes.
J'ai à peu près tout dit.
Donc, je suis François, tu es Alexis, et c'est Corto, évidemment. Est-ce que ça va, Corto?
Et
la régie. Bonjour, la régie.
Oui, la régie. Yes. Christopher en régie.
Est-ce que ça va, Corto, déjà?
Ouais, ça va. Ça va, je suis avec des
T'es content d'être là?
Ouais.
Bon, cool.
Alors, est-ce que j'ai oublié des choses dans ta présentation? Ou des choses que tu voudrais dire?
Ah oui.
Non, ça viendra sur le fil de discussion, mais non, c'est bien résumé.
Ouais. Bah écoute, je te propose de commencer déjà pour... on va dire tranquillement. Merci. Est-ce qu'il y a une actu JV récemment qui t'a marqué?
Ouais, bah t'as eu le Link GTA 6,
ah oui.
Là qui fait beaucoup parler, que je trouve super cool en fait comme actu, parce que ça commence à me montrer, enfin au départ c'était pas cool pour Rockstar, mais les effets que ça a sur le public c'est super intéressant parce que de plus en plus de studios montrent à quoi ressemblait leur jeu en cours de développement, et les gens font « Ah ouais !» C'est clair que ça demande du taf en fait. Bah, on peut voir Horizon qui a montré leurs premières images où ils avaient des polygones quand ils cherchaient des fonds pour faire leur jeu. Naughty Dog qui a montré les images de The Last of Us, d'Uncharted. Et ça permet surtout. Pardon, ça commence bien. Ça permet surtout de permettre au public de se rendre compte que faire un jeu, c'est pas.
C'est pas
quand il sort, il n'est pas comme ça, c'est comme un film, ça demande une prod, c'est hyper long. Et j'espère que ça les amènera à être plus enclins sur certains jeux quand ils sont en early access, sur les petites prods particulièrement. Donc voilà, ça c'est la grosse actu du moment que je trouve intéressante. En plus, elle nous concerne parce que nous on est en work in progress, on n'est même pas en early access. Et on a fait le choix de montrer quand même des images de notre jeu alors qu'on n'est pas du tout en fin de prod. Et on avait fait déjà ce contre-pied commercial au sein de notre boîte. Et j'ai l'impression que ça va changer un peu la donne dans les rapports entre les studios et les joueurs.
C'est vrai que j'ai vu ça aujourd'hui, moi. Ouais. J'ai vu pas mal de tweets passer justement avec, en fait, le graphisme, déjà, c'est pas forcément le premier truc qu'on va peaufiner. Et du coup, des gens qui commencent à critiquer, oui, regardez, il est un peu moche le jeu, oui, mais il est pas fini, donc forcément.
Il y en a plein qui ont dit, le design, c'est une fois que le design est fait, c'est bon.
Ouais, je sais plus quel jeu j'ai vu passer.
Ils ont décortiqué.
Mais pareil, comme ça, il y avait juste le personnage qui était relativement bien animé. Et le modèle était assez propre, mais tous les environnements étaient vides. Il y avait juste les ennemis qui se déplaçaient entre des cubes et c'est vraiment ça, quoi.
Mais en fait, je trouve que c'est à cause d'un tweet, si on parle de ça, d'un mec qui a dit « Je m'y connais en game développement et là, ça sent très mauvais parce que normalement, le graphisme devrait être bien mieux. » Donc en fait, il connaît rien en game développement, le mec. C'est pour ça qu'il s'est fait un peu bâcher par tout le monde sur Twitter. Parce que, en fait, il faut réfléchir à l'inverse. Quand tu fais un jeu, t'as d'abord les fonctionnalités, comment ça fonctionne avec une touche, qu'est-ce qui va se passer. C'est comme quand on développe un site web ou autre. Et plutôt la voiture, on va prendre la métaphore de la voiture. Si t'as pas de moteur qui marche bien et que tous les boutons marchent bien, ça sert à rien de faire une super carrosserie.
Ouais.
C'est pareil en fait. Donc le mec avec son tweet,
voilà.
Après aussi, tous ces jeux là qui sont en construction, il y a de l'attente, hein, notamment sur GTA 6. C'est pour ça que ça remue
grosse attente,
d'autant plus.
Moi étant un grand fan de la série, quand j'ai vu les leaks, j'ai fait... Il y a du prometteur, quoi. Il y a des choses intéressantes.
Bah ouais.
Après, forcément, on retrouve un peu ce qui fait GTA 5, donc... Ça, c'est bon, je suis déjà vendu. Ah,
je donne déjà les sous. C'est bon.
Ceux qui pensent que c'est un GTA Rockstar.
Oui, surtout sur les anciens GTA, je n'ai pas de souvenir de très mauvais. Quoi. Peut-être qu'il y en avait eu des moins bons que d'autres. Ouais, mais dans l'ensemble, je trouve que je les ai à peu près tous faits, en tout cas à partir du moment où c'est passé en 3D.
Ils sont passés à un tel niveau que.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous avez des mauvais Rockstar en tête.
Ouais. Faites un top 5.
Allez, un classement. Yes.
Du coup, je pense qu'on peut passer à la suite
yes.
Et surtout sur ton parcours personnel. Comment t'as découvert le jeu vidéo?
Ok, là c'est le moment où je raconte ma vie.
Il était une fois le petit Corto.
Petit enfant, Corto Lali. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à 7 ans, je crois. Okay. Enfin, je regardais mon frère jouer aux jeux vidéo à la PlayStation 1. Premier jeu auquel je regardais jouer, c'était Final Fantasy VII, de mémoire.
Pas mal comme premier.
Bonne référence.
Ouais, ouais, mon frère a des très bons goûts en jeu. Par contre, il était très mauvais. Et je sais pas si ça te raconte, mais en gros, il galérait sur Resident Evil 2. Et il avait compris que j'étais bon à la manette. Et à 8 ans, il me filait la manette et je devais finir les niveaux sur Resident Evil 2. Bon, après, je faisais des cauchemars. Et mes parents, ils comprenaient pas pourquoi, ouais. Mais...
Le regret est instantané.
Moi, j'adorais, mais voilà. Okay. Donc, j'ai fait Final Fantasy VII, Resident Evil quand j'étais tout petit, puis le 9 quand j'avais 10 ans. C'est le premier jeu que j'ai commencé moi-même et fini moi-même. Madeleine de Proust, littéralement. Je trouve que c'est le meilleur Final Fantasy, d'ailleurs. Voilà,
dites-nous en commentaire si c'est
souvent
votre...
le truc qui fait grand débat sur les Final, mais pour moi, le 9, c'est vraiment l'âge d'or de Square Enix. Voilà. Ensuite, quand j'étais ado, j'ai continué à jouer à plein de jeux, Warcraft 3, Age of Empires, énormément. Et là, j'ai déjà commencé un peu à traficoter des jeux. Je jouais beaucoup en éditeur sur Age of Empires pour commencer. En fait, on avait à disposition plein d'éléments où tu pouvais faire des maps avec, selon comment tu plaçais les unités des ennemis et que tu configurais un peu l'IA. Bon, c'était basique, ça a changé leur comportement et je m'amusais à essayer de faire le... Je crois Minas Tirith en fait sur Age of Empires, c'était mon grand délire. Je faisais 7 étages et je mettais un roi en haut et bref. Et après Warcraft 3, c'était une grosse période où j'étais à fond dans les communes Reddit de l'époque où les vieux forums obscurs ont traficoté des maps personnalisées, donc en l'occurrence une. J'ai fait partie d'équipe bénévole quand j'avais 12 ans et demi de Dota. Donc en fait, c'était la mode Dota, et on était une trentaine de bénévoles à juste l'améliorer au quotidien. Et d'ailleurs, un fun fact, c'est moi qui ai eu l'idée de mettre des tours. Pour ceux qui ont joué à Dota au tout début, avant, c'était pas des tours dans les MOBA, c'était un PNJ qui bougeait pas. Et moi, avec mes 12 ans, j'étais, mais c'est con que ce soit un bonhomme qui bouge pas, pourquoi on mettrait pas un bâtiment à la place, parce que c'est pas logique. Ils ont fait, ah ouais, bonne idée. Voilà, c'est ma grande victoire. J'ai pas eu de part sur le projet, dommage, si j'avais eu un peu de...
Bon, voilà, tu es là pour rétablir la vérité.
Voilà,
maintenant les gens savent.
J'ai un ami, hein, ça n'a rien à voir, mais qui dit que son grand-père a été l'inventeur du presse-purée et il aime bien le ramener. Et du coup,
Big up. Hein.
Voilà, hein. C'est la faute à Moulinex, comme il dit, qui a récupéré.
C'est le meilleur purée. Non, ma grand-mère me fait des purées incroyables avec ça. Je suis d'accord. Merci à lui. Donc voilà, après, en parallèle, j'ai beaucoup joué à Dofus. Alors là, c'était vraiment...
Le Meuporg.
Ouais, le Meuporg, 3 ans ou 4 ans à fond, des cours séchés à l'appel pour farmer.
3 ans de vie perdue, du coup, c'est ça ?
Pas perdu, parce que ça m'a appris à gérer des guildes de plus de 100 joueurs. Et je pense qu'en vrai, ça...
C'est du management.
Mais vraiment, non, mais vraiment c'est aussi dur que gérer une boîte hein, quand t'as 100 joueurs. Ce qui était marrant, c'est que du coup, j'avais conscience d'avoir 13 ans. On avait une guilde très sérieuse. On était la top guilde du serveur. Et j'étais fondateur. Mais du coup, je ne l'avais pas dit. Et c'était pas encore à l'époque où il y avait des cams. On était habitué à faire des vocaux. Donc, c'était tout sur MSN à l'écrit. Donc, j'ai fait croire que j'avais 19 ans. Que j'étais dans ma tête, 19 ans, c'était quelqu'un de très mature hein, à l'époque. Et donc, j'aurais fait croire que j'étais quelqu'un de super mature et qui gérait très bien l'affaire. Alors j'avais 13 ans, c'était très cool, je faisais ça avec mon meilleur pote de l'époque, on était deux gamins de 13 ans qui trafiquaient. Lui il se faisait passer pour une nana d'ailleurs, et il se faisait offrir des objets comme ça.
Comment ça peut se passer mal derrière ça?
Voilà, et pour l'anecdote, ouais, on a fait 3 ans comme ça, à fond, sur Dofus. Puis après je suis passé sur LOL à la bêta, quand il est sorti, parce que du coup j'avais mon passé sur Warcraft, Dota, donc j'étais un peu en mode ce sur quoi je bossais quand j'étais gamin est devenu un jeu, on va voir à quoi ça ressemble. Et j'ai été de 16 à 21 ans à fond sur LOL, vraiment du LOL, j'ai streamé du LOL, j'ai fait des compètes de LOL, plein de LAN, on a gagné des cash prize, c'était cool, c'était un peu les prémices de l'e-sport on va dire, et du streaming. Donc voilà, là je me suis fait un petit réseau d'ailleurs de streamers qui sont devenus des potes, qui aujourd'hui sont très très connus et tant mieux pour eux. Et ça m'a permis un peu de me rendre compte que j'adorais vraiment, vraiment le jeu vidéo. Pour l'anecdote, en parallèle, j'ai fait des études d'infirmier. J'ai fait 2 ans en tant qu'infirmier.
Ça doit être dur de lier les deux quoi.
Ouais. Grand écart. <quoi. rire>
Ouais, j'étais à Niort, le cybercafé de Niort était... Voilà, tous les soirs de 19h à minuit, voilà.
Après, faut s'occuper aussi.
Ouais, ouais.
Il y a peut-être juste un cybercafé, c'est le lieu de rencontre de tout le monde.
Niort, quoi.
Ouais, voilà. Donc voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup joué. Et en parallèle, je jouais à plein d'autres jeux, plutôt solo ou coop. Mais en tout cas, j'ai depuis le début, toutes les expériences de jeu que j'ai eues, c'était Dofus, LOL. Ce que j'adorais, en fait, c'était vraiment de faire des projets en collectif. Donc sur Dofus, c'était clairement d'avoir une guide et on voulait dominer le serveur. Voilà, ok. Et sur LOL, c'était performer avec 4 potes. Et petit à petit, on montait, on faisait des LAN. Et notre objectif, c'était d'être les premiers de la LAN de Brest, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, j'adorais pour le côté social des jeux. Et en parallèle, je faisais beaucoup d'autres jeux, plutôt des histoires solo, parce que je suis un grand fan de bouquins, séries, et dans les jeux, donc Final Fantasy IX, par exemple, c'est des jeux qui racontent des histoires et qui véhiculent des valeurs. Et à côté de ça, ouais, je faisais plein de jeux solo, qui sont axés sur la narration. En fait, c'est un peu paradoxal, mais j'adore les jeux très narratifs et j'adore les jeux très compétitifs.
Mais oui, c'est pas
trop l'entre deux. Je suis vraiment all-in sur l'un ou l'autre.
Ouais. Bah, c'est des expériences différentes aussi. Ouais, donc, c'est ça. Moi, je vois, c'est pareil, hein, entre potes, tu vas faire, je sais pas, des couch games, des jeux en ligne un peu, genre du MMO, des trucs comme ça. Puis tout seul, tu vas faire autre chose, quoi. Moi, je sais que je suis très fan de jeux narratifs aussi, Life is Strange, genre de choses. Et forcément, en fait, t'es plus immergé, t'es plus reposé, enfin, tu rentres dans le jeu, quoi.
Ouais,
et puis même les jeux narratifs, moi, ce qui me passionne dedans, c'est. Enfin, moi, comme certains bouquins ou films que j'ai vus, il m'accompagne dans ma vie, il me donne un peu des leçons de vie grâce à des histoires qu'il te raconte, et c'est ça que j'aime beaucoup dans tous les médias, en fait, toutes les formes de médias, c'est quand vraiment quelque chose me touche tellement que ça m'accompagne jusqu'à... Par exemple, j'adore les animés, les shonen, voilà, quand tu crées ta boîte, regarde un shonen, ça te permet de pas baisser les bras, quand t'as 56 000 en merde qui tombent dessus, tu te dis, j'ai pas le choix, faut que j'y arrive, quoi. Et je pense que toutes ces œuvres, elles m'aident à me construire en tant qu'être humain, et c'est ça que j'adore aussi dans les jeux vidéo narratifs. Et du coup, on était à 22-23 ans, je faisais ça. J'étais presque à passe de devenir pro sur LOL. Et ma chérie m'a dit en gros, là, faut que tu fasses un choix dans ta vie parce que je te vois jamais.
L'un ou l'autre.
J'étais infirmier de nuit, donc ça allait. Parce que du coup, j'avais un peu plus de temps libre, mais tout le reste du temps, c'était que du LOL. Mais vraiment, genre, que ça. Quoi. Et j'ai drop LOL, voilà. Et là, j'ai décidé d'arrêter d'être infirmier, de faire une licence d'informatique en alternance dans l'intelligence artificielle, où j'ai rencontré je suis fondateur de Wild Wits Games, mais j'ai un cofondateur, on est deux à l'avoir créé, c'est François, qui était mon tuteur d'alternance à l'époque, et qui est un krakos, pas possible, qui m'a tout appris, et on s'est trop bien entendu, on a commencé à mettre en place des... une fois par semaine, on se retrouvait pour jouer à des jeux en coop. Donc, au début, c'était Diablo 3, Way Out, des jeux comme ça. On s'est fait une sorte de petite routine. Après, le temps a fait que je suis allé bosser dans d'autres boîtes. Et l'histoire un peu classique, on a un an avant le Covid, on a fait un jeu qui nous a vraiment retourné. C'était Divinity 2 à 4. Et vraiment, pour moi, c'est un des graals du jeu vidéo, Divinity 2. On était à 4, en train de se marier entre potes, et en même temps, on a quand même réussi à être accroché à l'histoire comme jamais. Alors que quand on est 4, en général, on...
Ouais, souvent, tu
croutes, allez, on se marre.
C'est fun.
Et là, on était à fond dans l'histoire, en même temps, d'avoir vécu un truc à 4, et c'est tellement bien écrit que quand tes potes font une action, ça a un impact sur la quête de l'autre. C'est un jeu vraiment que je conseille à n'importe qui aime bien un peu les RPG, à partir du moment où t'as 3 potes avec qui le faire, c'est une expérience incroyable. Ouais, il est vraiment trop, trop bien. Et classical shit, Covid, je me rends compte que je me fais vraiment chier dans mon taf et que j'avais 50 docs de game design parce que qui étaient toujours que j'avais mis de côté en fait pendant toutes ces années. J'ai eu plein d'idées de jeux et je les ai toutes fait des docs à propos de quel serait mon rêve sur ce jeu. Et vu que j'avais commencé à tâter un peu l'environnement de la start-up, j'ai eu un peu conscience de ce que c'est créer une boîte. Trouver des financements, etc. Chaque fois, je faisais le coup de mes projets. Chaque fois, je faisais, laisse tomber. Mon père n'a pas 3 millions à me prêter, mince. Donc, au début, je give up un peu. Et arrivé au confinement, je me dis, j'ai une idée que je pense qui est faisable, pas trop dure techniquement aussi, parce qu'il faut faire monter en compétence une équipe, etc. Et je me dis, il y a un moment, il faut arrêter de laisser le temps passer, il faut y aller, il faut pas réfléchir. Et vraiment, c'est ça. Hein. J'ai dit à François, vas-y, on se retrouve un déj. Parce que je voulais le faire que si François était assez taré pour me suivre. Parce que moi, techniquement, ok, j'ai su coder. Là, aujourd'hui.
T'as oublié.
ouais, enfin ne me laissez pas le faire quoi, vraiment pas. Et je savais qu'avec François j'étais en sécurité parce que bah, j'ai bossé avec lui pendant 2 ans et c'est même lui qui m'a formé, enfin. Et au début il m'a dit je crois ouais, en mode je vais jamais oser le faire. Et je crois la semaine d'après j'ai démissionné, je lui ai dit vas-y on y va.
Et il a fait ah oui.
Ouais, et du coup s'il regarde la vidéo un jour, il sera merci. Il s'est dit oh shit quand on s'est lancé. Ouais. Donc on s'est lancé, on s'est dit il faut qu'on go hard en fait. Si on décide de faire un jeu, on ne va pas juste drop notre taf et faire un petit jeu à deux dans un garage. On s'est dit on veut faire un truc assez ambitieux, hein, je dis pas ambitieux à notre échelle à l'époque. On s'est dit on veut trouver des personnes qui travaillent sur le jeu, mais que ce soit leur métier, qu'on les paye correctement, qu'ils puissent s'y consacrer avec leur esprit dédié à ça, mais dans des conditions saines. On était en plein dans la période
Storm
shit, de crunch, etc. On était justement en mode wow, faut pas qu'on fasse ça. Mm-hmm. Faut pas non plus qu'on devienne une boîte. On voulait pas devenir la boîte, venez pour la passion.
Avec 2 $ sur le
tiens, t'es au SMIC, mais tu fais 70 heures par semaine.
Let's go.
Merci, mec. Donc, on s'est dit, non, on va pas partir de ce principe. Sauf que, bah, quand tu as plein d'ambitions comme celle-ci, bah, il faut pouvoir le faire financièrement.
Ouais.
Donc, on a dû étudier ce qui se faisait dans les jeux vidéo, etc. Et mon idée, donc, c'est éthériste, hein, l'idée dont je parle quand même. C'est un tactical RPG coopératif. Donc, ça reprend beaucoup Divinity 2. Mais moi, en parallèle, j'ai oublié un gros point dans mon histoire, mais pendant très longtemps, j'ai beaucoup modé sur Darkest Dungeon, qui est un jeu qui m'a énormément inspiré. J'ai fait un mode de jeu qui a été téléchargé genre 200 000 fois. C'était pas du tout légal. C'était l'univers de Warhammer mis sur Darkest Dungeon. C'est fait strike très vite, mais ça a cartonné. Et je me dis, ah putain, j'ai des bonnes idées quand même. Ce qui m'a un peu rassuré aussi dans l'idée de lancer une boîte dans le jeu vidéo. Je me dis, bon, mes idées en tout cas, elles trouvent leur public.
Ouais, ça marche. Ouais.
Et du coup, quand on a regardé vite fait ce qui se faisait, moi et Terry, c'était un univers vraiment très particulier. Je m'étais dit, bon, ce qui va être chaud, c'est de trouver un style graphique qui correspondrait à ce que j'ai en tête. Et en plus, je voulais absolument avoir... Enfin, même l'ADN de Wild Wits Games, ça va être de faire que des jeux avec des directions artistiques très particulières. Je veux pas, un truc fait sur Unity où je prends des assets en librairie. Ouais, je veux vraiment qu'on prenne des artistes
que ça ressorte,
et leur univers. Ouais, même, je veux vraiment qu'ils proposent un truc... qui change radicalement de ce qu'on a l'habitude, quitte à ce que soit, c'est risqué, c'est beaucoup plus risqué.
C'est vrai que c'est risqué. Je pense.
Ah oui. Ouais,
ouais, quand c'est... tu rentres pas dans les clous de ce que les gens ont l'habitude de voir, là, tu.
Complètement.
C'est là que tu te démarques aussi.
Aussi.
Ah, bah, tu te démarques, mais au risque de.
Ethereum, c'est très très drôle. Là. On est encore typiquement comme Rockstar. On monte des images alors qu'on est qu'en développement, mais généralement les joueurs ont 2 réactions possibles. Enfin, on a 3, mais les 2 principales. C'est la première, c'est ah, c'est dégueulasse, c'est quoi ce jeu? Et la deuxième, c'est incroyable, je veux absolument le prendre. Mais au moins, il y a un truc qui est bien dans ce cas-là, c'est que le mec qui dit c'est incroyable, il va pas hésiter à venir y jouer. Ouais. C'est un vrai point.
Ça attire l'œil en tout cas.
Ouais, et il y a tellement de jeux qui sortent actuellement en plus qu'on avait besoin de se dire qu'on avait trouvé notre public et pouvoir se créer une identité forte.
Ouais, sortir du lot un peu.
Ouais. Et c'est pour ça qu'on a. J'ai rencontré Gax, donc c'est notre directeur artistique, on peut le trouver sur Instagram, etc. Qui était un peu en train de monter en flèche en plus. Je me suis dit, ça va être pratique, il a un peu. Il a un petit réseau, il a 26 000 followers, je suis rentré comme ça. Je me suis dit, c'est toujours cool en plus.
Pour le business aussi en même temps. Ouais, voilà. Pour faire la promo du jeu.
Allez.
Voilà, après on devient entrepreneur quoi. Et il était assez fou comme François pour dire ah, vas-y je drop tout et j'y vais, j'ai toujours rêvé de faire un jeu vidéo. Donc lui c'est un gros fan des premiers Fallout par exemple, et c'était dit un peu comme Divinity, vous voyez, c'est un peu de la vue isométrique, tactique. Donc il a rejoint et très vite en fait on a un de mes anciens collègues qui maintenant fait partie de mon équipe, c'est Nicolas, qui était dev avec dans ma première boîte, qui m'a suivi dans notre deuxième boîte auquel je suis rentré. Quand je lui dis mec, en fait je crois que avant de même le confinement, je lui disais Nicolas, je sais qu'un jour je vais tout quitter, je vais créer un studio. C'est vrai que j'en parlais déjà, donc c'était quand même déjà dans ma tête.
C'était réfléchi.
Et je disais, et toi je te promets que je t'embaucherai pour faire de la musique ou dev. Si on n'a pas assez de sous pour dédier des sous à la musique. Il a fait pareil, il a tout drop, il est venu sur le projet. Donc c'est lui qui fait toutes les musiques d'Etheris. Et de fil en aiguille, on a réussi à créer une sorte de savoir-faire juste déjà avec notre premier cercle. Donc là, on était 7 à l'époque. Donc il y avait Nicolas, moi, François, Gax, Astrid sur la narration, qui écrit des romans d'ailleurs. Donc voilà, on avait une amie qui écrivait des romans et bah, il dit pof, je peux écrire les textes du jeu. Bah, ouais, vas-y, go. Après, un pote de Nicolas, Tristan, qui rejoint un projet qui est en animation 2D. Donc on faisait du 2D, pff, allez hop, on s'embarque. Donc on a créé un peu ce noyau fondateur. Derrière ça, bah, on a créé la boîte avec les économies de François et moi. On a juste mis nos petites économies et on s'est lancé. On a fait un truc hyper risqué, on s'est lancé, on a embauché les gens avec nos économies. Et au moment où on a créé la boîte, en théorie, elle devait mourir économiquement au bout de 3 mois. C'est le fun fact.
Oh shit.
Voilà. Et on réfléchissait pas en mode... En fait, on a décidé de lancer la boîte en mode pas du tout rationnel. Alors que François est quelqu'un de très rationnel. Justement, c'est un esprit très carré. On s'est dit, de toute façon, si on se met pied au mur dès le début, ben on va pas avoir le choix et on va devoir y arriver. Enfin, vraiment, on s'est mis dans cette logique-là. Bon, moi, j'ai cette logique. De toute façon, j'aime bien les situations où, en fait, je dois réussir ou sinon, ça passe pas.
Bah, c'est un gros coup de poker, quoi. C'est...
Ouais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les
coups de poker. C'est genre, ça va marcher, mais on verra, quoi. Et en fait,
c'est parfois... là où j'arrive à avoir le meilleur de moi-même, en fait.
T'es sous pression. Ouais. Après, mais c'est marrant parce que du coup, ça fait un peu un, je sais pas, tu vois, genre un double discours avec le crunch que tu disais avant. Tu vois, genre comment justement tu fais la part des choses en fait, à la fois de.
Bah, alors moi, par contre, oui, moi je.
Voilà,
je crunch.
Tu t'auto-crunch.
Auto-crunch et François aussi. Alors c'est différent, les deux. Alors là, c'est marrant parce qu'avec Moussala, on a eu la discussion de qu'est-ce qu'est la direction. Donc ils ont dit, bah c'est vous deux. On a fait, ok. C'est pas fun d'être considéré comme la direction. Mais nous, c'est un peu différent, François et moi. On a créé la boîte. En effet, on compte pas nos heures. Là, oui.
Ouais, parce que c'est votre bébé, un peu.
Ouais,
aussi,
voilà.
Quoi.
C'est... Mmh. Puis, c'est nous qui la détenons, hypothétiquement. Donc ouais. Là, on n'est pas des salariés. Les salariés, on fait extrêmement attention à ce qu'ils ne crunchent pas. Nous, ouais, on n'est pas dans la situation où, ouais. Mal. Enfin, peut-être un jour. J'espère, mais là oui, en effet, on a surtout démarrage, on a vraiment bossé.
Pas le but, après, ça reste quand même à l'horizon de pouvoir être comme tout le monde. Quoi,
ouais.
J'espère, après,
comme
chacun.
Tout le monde, quand on gère une boîte, en fait, le problème de gérer une boîte, c'est que tu gères toujours des imprévus. Donc, tu as tous les jours un truc qui peut. Et en fait, la meilleure métaphore d'une boîte, c'est 95% d'échecs, 5% de réussite. Déjà, ça, c'est vraiment un adage qui marche très bien. Mmh. Et les gens extérieurs retiennent que les 5% de réussite. Ils ont l'impression que tout ce que tu fais, c'est les 5% de réussite, ouais, en mode « Ah, ta vie, elle est trop bien, c'est trop cool ce que tu fais. » Mais ils ne voient pas tous les murs que tu te prends. Bah, par exemple, quand on a lancé la boîte, bah, on avait nos économies. Bah, notre plan, c'était de trouver des banques qui pouvaient nous aider financièrement. Bah oui, mais moi, quand je suis arrivé, salut, j'ai jamais fait de studio de vidéo, j'ai besoin de 100 000 euros.
Ouais, bah, ça va être compliqué.
Bah, il me claquait les portes, mais ouais. Bah, alors, j'ai fait la technique de la tête dans le mur, et ben j'ai tapé ma tête contre la porte quand il me l'a fermé tellement de fois qu'à la fin ils m'ont dit bon allez ok on va faire un test avec toi et on a fini par trouver un financement.
Ouais, c'est à force du coup de gratter un peu, d'essayer de
filouter. Ouais, bah j'étais filouter, convaincu qu'il fallait et que c'était un bon plan pour eux, pour les banques de nous aider. Et après j'aurais annoncé ce que je voulais faire. Hein. Mm-hmm. Etheri, c'est quoi la
oui, j'imagine qu'il y avait un plan très structuré. Ouais, c'est ça.
Mais dans ce plan il y avait toutes ces étapes très risquées qu'on a prises et qu'on a affrontées. Et après, il y a eu le Kickstarter qui...
Ouais, j'allais te demander à quel moment.
Alors, le Kickstarter, même si le montant est assez élevé, pour ce qui se fait dans le jeu vidéo et des Kickstarter, c'est peut-être tout ça qui nous a assis économiquement, parce que là, on est en salarié, il y a quand même 8 salariés dans l'entreprise, donc ouais. 30 000 euros, ça va très vite avec 8 salariés. C'était surtout, en fait, une preuve, parce que je cherchais en parallèle à lever des fonds, parce que je ne voulais pas signer d'éditeur pendant la production d'Etheris, parce que justement c'était un choix artistique tellement fort que je m'étais dit, j'avais des probas à l'éditeur, mais si je les acceptais, ils allaient nous imposer
des DA.
D'arrondir les angles, sur des choix même de gameplay, où moi je fais tout le game design. Je m'étais dit, non, no way, moi je veux un jeu hardcore, et si vous trouvez ça trop dur pour les joueurs, bah, tant pis en fait, je suis un joueur de Darkest Dungeon, j'aime souffrir, c'est à eux que je veux parler en priorité. Même si le jeu est beaucoup moins dur que Darkest Dungeon, en l'occurrence. Mais voilà, c'était ce choix-là. Donc, je cherchais à faire ce qu'on appelle de lever des fonds. Et le Kickstarter montrait aussi, surtout à des investisseurs potentiels, que j'étais capable de faire ce que j'annonce. Donc, j'avais annoncé vraiment, le Kickstarter va finir à 30 000 euros. Et bah, j'avais pas le choix. Pareil, là, j'avais pas le choix. Si ça plantait, ils allaient tout me faire. Allez, c'est bien planté, ouais. Mec. Donc voilà. Donc c'était un plan. Donc là, ça y est, on a fini largement cette phase-là. On a
fait. Et c'était quoi le point de départ en fait? C'était vraiment justement d'inciter les investisseurs pour rajouter plus en fait.
Alors non,
ce Kickstarter, ou est-ce qu'il y avait un...
C'est pas comme une levée de fonds, c'est vraiment des gens, ils ont acheté en avance Ethereum, c'est vraiment...
Ouais, oui, oui, non, je comprends bien, mais c'était plus, est-ce que c'était pour justement l'incitation, c'était aussi peut-être un coup de com' aussi, ça permet... Enfin, je pense que Kickstarter fait une visibilité aussi.
Oui, ça fait une visibilité plus pour le public, en fait, et les éditeurs, parce que c'est vrai qu'à la fin du Kickstarter, j'ai eu 15 éditeurs qui m'ont appelé. Alors, littéralement, le jour où Kickstarter a fermé, j'ai reçu 15 mails de « Oh, faut qu'on te rencontre ». Non, pour les investisseurs, c'était plus pour leur montrer que qu'on était réaliste de ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on sait bien estimer. Et en fait, ça rassure aussi sur les délais de production. Donc, on a dit que dans 2 ans, Ethereum sera prêt. Ça les a rassurés parce qu'on tient nos roadmaps, entre guillemets, dans le jargon des entrepreneurs.
C'était peut-être aussi un moyen de souffler, genre de repusser un petit peu la deadline aussi.
Ouais, aussi, ouais. Ouais. Ouais, bah, bien sûr, les finances nous ont bien aidé à ce moment-là. Mmh. Donc voilà, ouais. J'ai un peu dérivé de qu'est-ce qui m'a amené en jeu vidéo, mais...
Non, mais justement, c'est bien parce qu'on fait la transition vers la boîte, du coup. Et,
ouais.
Maintenant, en fait, c'est quoi ton ressenti par rapport à... En fait, qu'est-ce qui te fait la différence entre, par exemple, un des gens qui se lancent genre à deux?
Ouais.
Et qui font leur projet dans leur coin et montent, essayent de faire un premier projet. Et puis toi qui, justement, réunis plein de gens autour du projet pour aller en force un peu.
Ouais, une force de frappe.
Comment tu vois ça, en fait
Je pense déjà que ça dépend énormément des personnalités des personnes qui veulent lancer leur jeu. Parce que moi, quand j'ai créé Wild Wits Games avec François, on ne s'est pas dit on va créer Wild Wits Games pour faire Ethereum.
Ouais.
On s'est dit on va créer un studio de jeux vidéo. C'est vraiment une philosophie déjà très différente, parce qu'il y a souvent aussi deux personnes quand ils lancent leur jeu dans le garage, s'ils veulent pas créer un studio, ils veulent créer le jeu de leur rêve.
Mmh.
Moi, le jeu de mes rêves, s'il est dans les 50 documents de game design, mais il coûte 80 millions
cher,
à
ouais.
la production.
Ouais, donc en gros, c'est un peu... Bon, c'est quoi la première étape pour arriver à quelque chose de beaucoup plus ambitieux?
Voilà. C'est un plan réaliste, et c'est un projet que j'adore du fond du cœur. Hein. Thierry, c'est vraiment mon bébé, mais on voulait créer une boîte avant toute chose et se projeter dans le futur. Donc il faut rassembler des talents, les former. On croit beaucoup en l'humain. Pour nous, c'est surtout... un jeu, c'est un projet, mais qui a un ensemble d'humains. Et qu'on est... Il y a plein de génies qui font des super jeux. Enfin, je pense un jeu que j'adore, Hollow Knight, par exemple, c'est une équipe de 5 gars. Bon, en vrai, il y a 15 prestats derrière, mais en tout cas, sur le storytelling, ils sont que 5. Mais au départ, ils étaient que 5 gars, dont 3 fondateurs qui sont arrachés. Moi, je me voyais pas travailler comme eux, en fait, parce que eux, j'ai l'impression de beaucoup bosser, mais alors eux, j'imagine
ouais,
pas c'est quoi
c'est
leur,
pas
leur
le
quotidien.
Niveau.
Mais ouais. Vraiment, ça doit être 7 jours sur 7, 12 heures par jour, hein. Vraiment. Enfin, faut imaginer ce que c'est une vie comme ça pendant des années, en fait. Pendant 4 ans, faut être déter, quoi. Premier point, et surtout, je pense pas du tout que j'ai la science infuse et que je peux faire les meilleures œuvres seul, et c'est pour ça que j'ai voulu m'entourer de gens hyper créatif, genre Gax, il a un imaginaire complètement fou, et c'est ce melting pot de plein de talents que j'ai voulu rassembler, faire progresser pour l'instant c'est Terry, ce premier objectif, mais le but c'est qu'on construise quelque chose à longue durée qui serait vraiment une boîte qui propose plein de jeux avec des directions artistiques et des gameplays sont uniques parce qu'on essaye de mélanger des genres qu'on aime bien et de les traiter de nouvelles façons, comme ce que font la plupart des jeux indés, mais sous vraiment des DA très marqués. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit on va créer une boîte plutôt qu'un studio. Et pour la grande différence, je pense, entre deux gars qui sont seuls, c'est qu'ils veulent faire un jeu. Nous, on a voulu faire une boîte. Et aussi, j'étais un peu tous mes tafs précédents, donc j'étais vachement dans la Startup Nation, etc. Donc j'ai pu vraiment m'imprégner de déjà comment mettre une cravate et demander des sous à des gens. Voilà. Je maîtrise très bien ce sujet.
Entrepreneur.
Donc ça, non mais ça aide, mine de rien, mes 4 ans avant, ça m'a bien aidé de comprendre qu'est-ce qui marche pour trouver des financements, qu'est-ce que j'ai besoin de présenter pour rassurer les gens sur mon projet.
Bon, on parlait tout à l'heure de Hack & Notion, c'est un peu hacker le système pour trouver des financements.
Non, il s'est persuadé, voilà, on va dire ça comme ça.
Un peu.
Est-ce que c'est pas un peu la même chose?
Mais en réalité, c'est pas du tout de la... En fait, c'est pas de la filouterie du tout, parce que ça, on pourrait avoir l'impression, mais c'est plutôt comment savoir présenter vraiment ce qu'on a en tête. Et pour l'instant, par exemple, tous les financeurs de Wild Wits Games, le plan que j'aurais montré, mais il est tenu de A à Z. On tient tous les délais, etc. Mais le problème, souvent, c'est de savoir présenter ce plan à ces gens de la bonne façon pour qu'ils comprennent, parce que c'est pas des gens qui sont dans le jeu vidéo. Donc oui,
c'est ça. Après, je fais quand même un
tactical RPG coopératif.
Enfin, souvent, les gens, à mon avis, qui justement financent ce genre de projet, ils sont pas forcément dans le jeu vidéo.
Ah, bah
et ils ont pas forcément... En fait, il faut leur présenter d'une manière, comme tu dis, pour que justement, ça paraisse... à la fois pas juste un truc c'est un truc de jeu là pour les jeunes, j'en sais.
Exact. Non mais c'est exactement ça. En tout cas pour les financeurs qui sont pas dans le jeu vidéo, parce que les éditeurs c'est une autre partie, mais nous on voulait vraiment pas d'éditeurs pour le début en fait on voulait que Eteri soit déjà en fin de
mature,
prod
si
on signait un éditeur.
Ouais, pour dire en fait c'est déjà fait, on va pas le changer, voilà vous signez ça quoi.
Voilà,
c'est un peu ça.
C'est exactement ça. Donc ouais, ça c'est bon, c'est aussi que j'avais ces armes là qui fait qu'on a pu l'envisager comme ça au départ. Et ouais, c'est ça la grande différence, c'est vraiment que nous on a vu une entreprise avant de lancer un jeu, et après voilà.
Du coup j'imagine que là avec tout ton paquet d'idées, vous avez peut-être d'autres idées pour des jeux après, c'est déjà fixé ou c'est tu gardes ça sous le coude et puis
NDA.
NDA carrément.
Là c'est oui on va bientôt se lancer dans la prod du prochain jeu, ça va être dans 6 mois qu'on va se lancer en fait, quand on va commencer vraiment à avoir fini la prod d'Eteris, tout doucement on va commencer à faire les prototypes du prochain jeu ou des prochains jeux, donc voilà.
Ouais, il y a déjà des idées pour
J'en ai 50 hein. Pas du tout une métaphore hein. C'est vraiment j'ai déjà tous les dans mon garage, dans mon garage, j'ai tous ces docs qui sont prêts, juste à faire. Donc c'est, j'adapte avec les.
Voilà, et voir ce qui est gérable ou pas. Quoi.
Voilà.
Ok.
Et la sortie d'Eteris, elle est prévue pour quand?
Alors, pour l'instant, elle
gros
est prévue.
Mots, quand même. alors.
Avril ou mai. Voilà.
2023, du coup.
Oui.
Ouais.
Presque avant le Stonefest. Je dis ça, je dis rien.
Ouais.
Ok, super cool. Je reviens un peu en arrière. J'ai entendu que tu as parlé d'indé. Est-ce qu'il y a des refs de jeux indé qui vraiment. C'est les trucs où tu te dis c'est les immanquables, qu'il faut que tout le monde les fasse, à part Divinity.
C'est vraiment méga. Bah, c'est pas un dé, hein, Divinity. Hein,
c'est, ouais, c'est
un dé.
C'est double A, quoi.
C'est un indé double A, quoi. Si, en soi, ils ont été indés au moment de se lancer. Ils ont fait un Kickstarter de ma boule, mais. Moi ceux qui m'ont plus marqué en jeu indé, et là, c'est vraiment juste mes goûts perso, c'est Undertale, vraiment qui m'a marqué énormément, vraiment, c'était une claque dans ma tête, surtout que j'ai vraiment fait le zéro spoil, j'ai fait le teubé qui a fait la route génocide pour ceux qui connaissent, et quand j'ai compris ce qu'étaient les LV, Level of Violence, j'ai fait, ça fait un peu réfléchir à...
Est-ce que t'as fait le pacifiste derrière?
Ouais, j'ai fait le pacifiste derrière. Darkest Dungeon, évidemment, c'est vraiment un jeu que j'affectionne vraiment énormément. En autre indé, c'est vraiment les deux plus gros indés, à mon sens, que j'ai le plus apprécié. Faster Than Light, que j'aime vraiment beaucoup.
Réfléchir, quoi.
Ouais. Ouais, non, mais c'est eux les trois principaux.
Ok.
Ouais.
Intéressant.
Ouais.
Undertale, la BO, c'est. Je pense que c'est mon top 1.
Ils t'aiment.
Ouais. Voilà.
Et je pleure. Mais vraiment.
Ouais, voilà. C'est clair. Désolé pour l'aparté, mais.
Non, mais c'est très bien. Hein, justement, c'est très bien. Et du coup, tant qu'à faire, je pense que tu les as déjà un peu cités au départ, mais les pierres angulaires, les trucs qui font le jeu vidéo, pour toi, c'est quoi?
Alors, comment ça, les jeux.
Les jeux qui ont fait le jeu vidéo. Enfin, on va dire que, genre, comme tu disais...
Les Final.
Le Final, ouais.
Pour moi, Warcraft 3, par exemple, ça, c'était quand même... Enfin, pas le 3, même le 2 était déjà à l'époque.
Mais même sans que, par exemple, ce soit tes références à toi, tu vois, genre, par exemple, que tu te dis, ce jeu-là, je ne l'ai pas forcément aimé, mais je le trouve important dans l'histoire du jeu vidéo, tu vois.
Ouais, ouais. Je suis pas trop inspiré, mais pour moi le jeu en tout cas qui m'a le plus retourné, alors là je parle juste, c'est The Last of Us qui est vraiment c'est pas mon jeu préféré parce que c'est Final Fantasy IX, mais sinon ce serait lui, parce que vraiment il a il a apporté quelque chose qu'on retrouve dans Baston, dans Undertale, Celeste ou des jeux comme ça, mais ils l'ont apporté à une dimension bien plus large parce que bien plus commercial. Enfin, c'est un triple A qui touche le grand public comme ça parce que c'est des zombies et des guns, pam, pam, mais en fait, ils sont allés bien au-delà. Les valeurs, les réflexions que tu as sur le sens de la vie humaine, en fait, dans The Last of Us, mais c'est. Mmh. C'est bouleversant. Enfin, et le 2, moi particulièrement, alors la plupart disent The Last of Us 1, enfin Part 1, ouais. Et moi The Last of Us Part 2, c'est, je trouve, mais un chef-d'œuvre, mais. Enfin, j'arrive pas, toujours pas à m'en remettre. J'ai rien de reparler, ouais. Je suis toujours autant bouleversé par le jeu. C'était le premier jeu de ma vie où, quand j'ai fini The Last of Us Part 2, j'ai posé ma manette et je suis resté genre 15 minutes en mode. Oh putain. Et mon cerveau a eu du mal à drop l'expérience que j'ai vécue, mais pendant 2 semaines, ça m'a travaillé. Et qu'une œuvre arrive à se faire ça, même la plupart des films n'ont jamais fait ça. Et The Last of Us, c'est vraiment pour moi le panthéon de ce que peut faire un jeu.
Et puis en plus, côté narratif,
toute l'histoire qui est.
C'est à fond, quoi.
Ouais, et pourtant, en soi, les mécaniques du jeu sont pas incroyables. C'est un jeu couloir. Ouais. Mais en fait, c'est juste. Bah, c'est ça, la narration et la mise en scène qui.
Ouais, c'est ça. C'est entre un film et un jeu, quoi.
Ouais, wow, bah c'est quand même un jeu. Hein,
oui, c'est un jeu, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des jeux où c'est pas ça va bouger de partout, où il va falloir faire bouger le personnage, ou genre réagir, l'action et tout. Et là, en fait, des fois, tu te laisses un peu porter aussi par le jeu, tu vois. Genre, tu vas avoir des phases où t'es un peu plus actif, mais des moments où tu vas être un peu plus relax, tu t'apprécies. Et c'est plus ce côté un peu cinématographique, justement.
Ouais, complètement. Et l'autre jeu qui moi, m'a beaucoup marqué, c'est The Witcher. Que genre, je. Surkiff.
Le 1
Non, le
3
Non, il est toujours.
Il faut pas le relancer.
Moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il y a le 3 qui sort tout le temps.
Ouais.
C'est un peu comme Skyrim.
Je les range pareil. Hein. Skyrim est à côté de The Witcher 3.
Ah, moi, c'est le 3. Non, le 3, vraiment, je prends mon pied dans les musiques. Enfin, narrativement, c'est trop bien. Pareil, le gameplay est pas si ouf. Hein, mais. Et en fait, c'est tout le travail d'ambiance.
Ça marche, quoi. C'est juste, ça marche. Quoi.
C'est bien fait. Mmh. Enfin, en vrai, quoi, tout le monde se moque de Cyberpunk, mais ceux qui ont joué à The Witcher 3 quand il est sorti, en vrai, moi j'avais Ablette qui avait la tête contre le sol et qui slidait. Hein. Donc, bon,
ça glitch un peu, ouais.
Ouais. Pour anecdote.
Après, de toute façon, c'est après coup, c'est. C'est comme dire, corrigé, quoi.
C'est patché, ouais.
Je pense, à mon avis, maintenant, Witcher 3 et Cyberpunk sont relativement jouables facilement sans trop de bugs.
La régie n'est pas d'accord.
Ah. J'avais entendu des avis contraires, mais.
Ah, vite fait, quoi.
Et ouais, pour moi, ça, c'est les deux jeux qui m'ont le plus marqué. Ouais, vraiment. C'est les deux jeux. Et quand j'étais gamin, les Final, Half-Life. J'adorais Half-Life quand j'étais gamin. Genre, vraiment, c'était trop bien.
Ah, moi, tu vois, c'est là où j'ai eu les cauchemars. C'est Half-Life.
Ah ouais, mais t'avais pas fait Resident Evil 2 à 8 ans.
Ouais, non,
moi, j'étais capable de tanker après. Non, après avoir fait ça à 8 ans, tu peux tanker tout ce que tu veux.
J'ai fait le 4 à 18 ans et je m'en remets toujours.
Ah,
ouais.
Ah non, mais moi, par contre, je suis blindé contre tous les jeux d'horreur. Genre, ouais. Outlast, je peux le faire tout seul la nuit dans le noir. Genre, maintenant, je suis. J'ai hâte d'ailleurs, il va bientôt être jouable en coop pour ceux qui connaissent Outlast, qui est un excellent jeu. C'est un jeu d'horreur où c'est vraiment bien sordide.
Ok.
T'as une caméra.
Je suis pas très jeu d'horreur.
Moi non plus, je suis pas trop.
Non, il est bien. Et en coop, ça va être. Vous pouvez le faire en coop ensemble, mais faire un
live. Ouais, super.
Je pense en idée de podcast, on pourrait vous mettre tous les deux en train de faire un live.
Oui,
stream.
Let's play. On est d'accord. Juste pour la régie qui dit, je trouve intéressant dans Outlast, hein, c'est que il fait noir. Ton seul outil pour voir dans la nuit, c'est un truc avec un champ. Tout petit, et donc s'il y a quelque chose à voir, tu vas le voir d'un coup, et tu vas pas voir trop autour.
Ouais, c'est du jumpscare, quoi. C'est
non, pas du tout.
Non, il y a aucun jumpscare,
pas du tout.
C'est genre le truc que je déteste le plus dans l'horreur. Déjà que j'aime pas l'horreur.
Ouais. Oh, j'ai joué à Slender, c'est bon, je sais maintenant.
Mais si, Silent Hill, genre trop bien.
L'univers c'est une expérience, ça aussi, pareil.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que tu m'enchaînes les live streams, du coup. Est-ce que tu es client de ce genre de choses? Enfin, tu regardes beaucoup de live, du Twitch, des choses comme ça?
Ouais, bah moi,
surtout qu'en plus, si tu
j'ai fait partie de cet univers, je regarde pas mal de streamers. Bon, maintenant, j'ai plus trop le temps, en vrai, de regarder des streams, mais je connais très bien la scène de streaming. Je pense un peu, mais Etherix, par exemple, j'ai un peu pensé pour du stream. Parce qu'en soi, c'est un jeu coopératif où tu dois prendre des choix ensemble. Et j'espère voir tomber sur des live streams où je vois 4 mecs en train de s'engueuler parce qu'ils savent pas s'ils doivent achever le mec ou le secourir. Et ces trucs qui me font bien marrer de voir des gens comment ils appréhendent un jeu autrement que toi. Enfin, moi, j'ai du mal par contre à regarder des streams de personnes qui jouent à des jeux auxquels je n'ai pas joué. Ouais. Mais j'aime beaucoup regarder des gens jouer à des jeux auxquels j'ai joué pour voir comment ils perçoivent le jeu différemment de moi. Par exemple, The Last of Us 2, je suis toujours choqué de voir des gens qui n'arrivent pas. Je sais pas si je peux spoiler le jeu.
Spoiler, skip une minute si tu veux.
Même ici, je peux spoiler.
Ouais, vas-y.
Oui, vas-y, moi j'ai vu.
Ellie et Abby, au moment où tu switches entre le personnage principal d'Ellie et tu passes du côté d'Abby, j'étais choqué de voir des gens qui disaient « je peux pas jouer à jeu, je peux pas jouer Abby » parce qu'émotionnellement, c'était trop dur de jouer celle que tu percevais comme une méchante. Déjà, j'ai trouvé ça surprenant que des gens arrivent viscéralement pas à jouer au jeu à cause de ce moment-là.
Catharsis, un peu.
Ouais. Et par contre, et je leur en veux à tous ceux, et alors là c'est un vrai choix politique, à tous ceux qui n'apprécient pas Abby après avoir joué sa partie jusqu'au bout, et qui continuent de dire que c'est pas elle la vraie héroïne du jeu, parce qu'elle est incroyable. Parce qu'elle a un chemin de rédemption absolument superbe si t'as pas joué au jeu. Elle comprend un peu, justement c'est l'humain qui comprend ce qu'elle a fait de mal, entre guillemets. Elle arrive dans un moment de sa vie où elle arrive à être dans la rédemption, elle cherche vraiment la rédemption.
Okay.
Alors que le personnage principal d'Ellie, qu'on adore, elle n'arrive pas à se détacher de la vengeance, elle est toujours dans ce cycle de violence. Mais tu comprends pourquoi elle le fait, mais Abby a toutes les mêmes raisons de continuer, elle arrive à passer outre.
Et
son personnage est hyper fort. Quoi. Genre, et ce qu'elle fait vivre aux joueurs, c'est hyper fort, parce que c'est elle qui tue le personnage de The Last of Us 1. Mmh. Donc, émotionnellement, quand t'es joueur, t'es en mode c'est pas possible, elle l'a tué, quoi. Et après, tu te retrouves à avoir de l'empathie envers elle, et c'est là-dessus que c'est un coup de... Neil Druckmann est un génie. Voilà.
Stylé. Remember Raiden dans Metal Gear Solid 2.
Ouais, voilà.
Même principe où t'es là en mode...
c'est plus vieux, mais on enchaîne les...
Non, mais si.
Même principe, t'es là en mode, ah ouais, Snake, trop bien, machin, et puis là, on te balance Raiden, et tu fais... Mais non, mais moi, je veux pas jouer à ça. Même principe, pareil.
C'est le même principe, en beaucoup plus poussé, tu vois, genre, parce que...
Pour le coup, c'est pas du spoil, c'est genre au bout d'une heure, heure et demie, c'est bon.
Ouais, franchement, c'est au bout d'une heure.
Et puis bon, si tu connais Metal Gear, t'as déjà vu Raiden. C'est pas un gros spoil pour le coup. Mais ouais, je vois le principe.
Bah voilà, je pense qu'on arrive à peu près au bout. Hein.
Je sais pas, t'avais d'autres trucs à nous dire
Là, on est plus sur des gens qui sont sur Rennes, du coup, qui vont regarder ce podcast. Un truc qui sont cool avec Wild With Games, c'est qu'on enregistre toutes nos musiques avec le conservatoire de Rennes. Et il va y avoir 3 concerts. Un en décembre, où le conservatoire va jouer des musiques dédiées aux jeux vidéo. Donc déjà, c'est cool pour n'importe qui aime bien les jeux vidéo. Et il y en aura 2 qui sont des musiques d'Eteris. En mars, on aura un concert dédié à Eteris. Et en mai également. Donc ça, c'est cool.
C'est trop cool.
C'est original en plus.
Et ce sera les 3 au conservatoire
Ouais.
Ok.
Il y aura peut-être d'autres trucs, mais ça, je ne spoil pas.
On relaiera les infos.
Ouais, ça va être vraiment cool.
Avec plaisir.
Ouais.
Trop, trop bien.
Alors, moi, je vois un sujet qui... Attends, je faut que j'appuie sur un bouton.
La régie.
Voilà.
Wow. La régie est là.
Qui pourrait lancer 3 quarts d'heure de plus, mais... moi, j'ai reconnu ton jeu parce que j'ai frôlé l'organisation du Stonefest et je reconnais la DA, tout ça. Et donc, t'as vécu ça. Comment tu l'as vécu?
Stonefest, c'était vraiment top. C'était le premier salon que Wild With Games faisait. Et du coup, il y avait une appréhension de l'équipe en mode vas-y, on dévoile des premières images de ce sur quoi on travaille. Et le jeu a été hyper bien reçu parce que le public du Stonefest, je pense que c'est plutôt des joueurs avertis, hyper bienveillants. Et genre, on a vraiment pris un kiff de ouf de voir des gens jouer au jeu. Bon, on a un problème, nous, c'est que c'est un tactical, donc c'est long.
Il faut expliquer, je pense, un peu.
Mais surtout, il y avait des gens qui restaient. On a eu des mecs qui sont restés 3 heures. Du coup, ils faisaient vraiment la run.
Ça prouve que le jeu est bien, quoi.
Il y avait plein de gens qui étaient en mode on peut jamais jouer au jeu. Ouais, désolé, mais on ne va pas le dégager.
Bah oui, c'est sûr.
Donc voilà. Donc ouais, c'était une première expérience super. Après, on n'a pas gagné de prix, donc là-dessus, j'étais très triste.
Choqué et déçu.
Vous avez été déjà présent, c'est déjà bien.
Mais l'année prochaine, on aura un prix, je pense. Ouais, bah on sera en early access normalement.
Ouais.
Donc là, ouais, on sera bien plus. Il y aura un an d'écart. Donc il y aura beaucoup de changements. Vraiment une expérience top de chez top. Genre, vraiment. En fait, t'en sors après les 3 jours. On avait, enfin, je crois que ça finissait dimanche à 18h. Je crois que lundi, on était déjà en train de se dire putain, vas-y, lundi matin, on change ça, 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 ça. Et ils nous ont dit que ça, ça marchait pas très bien.
Ah, c'est un bon moment, un bon moyen d'avoir du feedback.
Ah ouais, des super feedback. Et je crois que les 3 jours après Sunfest, avec Paul, il te reconnaîtra. Et il poussait des trucs dans le jeu, genre à la pelle, parce que ah, on m'a dit que ça, ça allait passer vite, ça, nan, et c'était trop bien, parce que bah, ça nous a nourri énormément en énergie et en idées. Mais surtout l'énergie que ça nous renvoie, nous, quand on est développeur, parce que on le voit pas souvent quand. Bah, un jeu, c'est hyper. C'est un vrai taf, hein, c'est plein de corps de métiers qui doivent. Qu'on doit tous coordonner parce que faire animer un personnage, il faut l'animer, il faut le programmer, comment ça fonctionne en gameplay, comment ça enfin voilà, c'est une énorme chaîne avant qu'un jeu soit sorti, de plein de talents différents qui parlent pas forcément le même langage en réalité. Un développeur, ça parle pas du tout le même langage que Gax qui fait des dessins à l'aquarelle.
Ça, c'est sûr.
Voilà, c'est deux mondes complètement opposés. C'est des gens très binaires avec des gens tout sauf binaires. Donc, c'est de réussir à coordonner tout ce travail et du coup, c'est haletant de faire un jeu. On y met beaucoup de personnel aussi, parce que quand tu racontes des histoires ou tu montes ton art, c'est un peu de ta personne que t'offres, et d'avoir le retour des joueurs qui est si positif que t'en sors, t'as juste envie de tout casser et continuer, quoi. Et ça, c'est le plus précieux, je pense, pour n'importe quel studio. Donc, voilà.
C'est un truc qu'on dit souvent, hein, mais le stun, c'est super pour tous les retours, parce que justement, ce public qui est un petit peu en dehors de la norme, on va dire, ouais, et qui te donne des feedbacks aussi précis et qui peuvent vraiment améliorer.
Après,
je
sais que vous étiez dans un endroit un peu à reculer, mais aussi des fois tu as du public un peu varié, tu vois, genre, ça peut être des familles, ouais, ouais, des gens qui font beaucoup de jeux vidéo ou genre qui regardent juste par curiosité.
Ouais,
et
mais
donc,
on
ça varie aussi.
Beaucoup de gens qui étaient vraiment des ouais, joueurs vétérans, enfin joueurs joueuses.
Peut-être que le jeu aussi est pas forcément justement comme tu disais qu'il a un style graphique particulier. Peut-être qu'il y a des gens qui passent et ils
ouais,
se disent tout de suite « Ah, ça veut
ouais, ouais,
pas
sûrement,
mon truc,
sûrement, sûrement, mais ouais, je pense, oui, probablement. Mais en tout cas, du coup, les gens qui ont joué, qui nous ont fait leur tour, c'était top, hyper bienveillant, donc c'était trop bien.
Ah, trop bien. Bah, franchement, super content, en tout cas, de vous avoir accueilli sur le stand, ça fait trop plaisir.
Ouais.
Je ouais, passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai ouï dire que tu étais dans l'assaut de la maison du jeu vidéo. Est-ce
ouais,
que ça te parle, ce projet-là?
Ouais, ça
on
me
m'a
parle,
dit dans l'oreillette.
Ouais, c'est vrai, je fais partie de l'assaut de la maison du jeu vidéo.
Yes, bah voilà, c'était juste pour montrer que Corto fait partie du collège entreprise.
Ouais, je représente des entreprises pour la maison du jeu vidéo.
Bah après, c'est bien, on peut en parler du coup un petit peu, genre comment tu vois le projet aussi, tu vois.
Bah là, là, c'est dans la phase de, on va dire, de rénovation du lieu, donc il y a encore tout à faire, c'est en train d'être construit. Moi, comment je le vois, en tout cas, ce que j'aimerais apporter en tant qu'entreprise, c'est que la maison du jeu vidéo, ça va permettre d'avoir un lieu physique qui va pouvoir relayer un peu tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, hein, mais d'avoir un lieu où on va pouvoir centraliser les gens qui vont être passionnés ou qui ont envie de s'intéresser à soit faire du jeu vidéo, soit utiliser le jeu vidéo et y jouer, tout simplement, parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas accès à des moyens pour y jouer, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de console chez eux et qui ont envie de jouer à un jeu précis.
Bah, pour ça, en créer.
Pour aussi. Créer. Ouais, mais les deux, souvent, pour les créateurs et pour les gens qui ont envie
c'est
de jouer.
Ça
va être un lieu où on va pouvoir centraliser ces choses-là et pouvoir diffuser, parce que ça manquait à Rennes, en fait, d'un lieu ouvert au public. Typiquement, moi, si je reçois une pelletée de demandes de stage quant à un studio de jeux vidéo, c'est vraiment. Et on ne peut pas y répondre à toutes ces demandes. Ça permet d'avoir un lieu pour pouvoir les diriger, ces gens-là qui ont envie de travailler dedans, qui ne savent pas comment s'y prendre, même des futurs créateurs. Ça permet d'avoir un lieu où ils vont pouvoir dire, imaginons que là, quelqu'un écoute et se dit comment je peux faire un studio, et ils se demandent comment je vais pouvoir le financer. Typiquement, la maison du vidéo, ça lui permet de dire, va demander à Corto, il pourra donner quelques tips. Ça permet de pouvoir mélanger toutes ces personnes. Alors là, je parle vraiment de mon prisme d'entrepreneur, hein, de ce que je pense que ça va pouvoir apporter. Et voilà, je sais pas, mais toi
mais
aussi,
c'est,
peu,
ouais,
tu
bah
peux trop bien en parler. Hein,
oui, c'est sûr. Mais c'est aussi le cas pour d'autres prismes que ça. Hein. Nous, ouais, par exemple, côté ASSO, on sait que ce sera une sorte de hub qui nous permettra de redispatcher le chaland qui passe par là et qui a envie de s'intéresser à tout ce qui se passe autour du jeu vidéo dans le bassin rennais, et que ça passe par des entreprises ou des assos, etc. Et je pense que comme tu dis, c'est quelque chose qui manquait, qui était nécessaire, et ça va se construire comme ça, et on arrête.
Ça va bien grossir, ça va être bien cool, je pense.
Ouais, carrément.
N'hésitez pas à aller voir notre épisode avec Basile. qui en parle vachement bien aussi de l'origine du projet.
Ouais, ouais, lui, il est plus dans les prémices. Mais ouais.
Justement, c'est bien pour savoir ce qui s'est, ouais, ce qui s'est passé avant.
Vous allez recoller les morceaux comme ça. Yes, bah voilà, moi c'était tout ce que j'avais.
Voilà, la régie n'a rien de spécial à rajouter.
La suite, ouais, c'est quoi la suite? Bah, la suite, c'est qu'on continue le jeu, j'imagine.
La suite, on sort le jeu, on prépare la prod du ou des prochains jeux. Mm-hmm. Et il y a plusieurs autres petits projets transverses, bah, comme les concerts avec le conservatoire. Je m'intéresse beaucoup au transmédia, donc soit des courts-métrages, soit des séries. Je peux pas en dire trop plus parce que c'est encore au stade de développement, mais okay. Voilà, dans notre tête, il y a plein de choses qui.
Bah, tant mieux, il y a plein de projets.
Ouais. Voilà.
Il y a plus qu'à, quoi.
Voilà, il y a plus qu'à.
Trop cool.
Bon, bah, yes. Je crois qu'on peut se quitter là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner au podcast.
Ouais, sur tous les réseaux, enfin,
Spotify, lâchez, tout ça. Ouais. Allez sur YouTube.
Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. Tout ça.
Et puis, on vous remercie d'avoir regardé ce podcast. Ou de l'avoir écouté.
Merci Corto d'être venu, merci à l'équipe, plaisir. Merci à la régie également qui est dans le noir
on
là-bas.
On peut avoir des applaudissements.
Alors, est-ce que tu connais le bouton des applaudissements? C'est celui en haut à droite, je crois. Et non.
Ça marche aussi.
Et c'est encore.
Bravo, c'est pas grave. On y croit.
Et puis nous, on se retrouvera pour un autre épisode avec d'autres gens dont on n'a pas encore dévoilé les noms. Voilà.
Salut, à plus.
On a rien.
À la prochaine, salut.
Salut.